Le Monde aujourd'hui avec Julien Corona.
Aujourd'hui à l'émission, recrudescence des cas de Covid et variants Omicron et vitalité du fait français au Québec au travers de l'enseignement. Bonjour à tous, un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui en ce vendredi. On reçoit deux invités, Nima Machouf, épidémiologiste, avec elle on va discuter de la recrudescence des cas de Covid et du nouveau variant Omicron. Et en deuxième invité, j'aurai l'honneur de recevoir Frédéric Lacroix, essayiste, qui sort un nouveau livre, Un libre choix, à propos de le français comme langue d'enseignement. On discutera avec lui des derniers sujets en la matière. Bonjour Madame Machouf.
Bonjour.
Avec vous, on va discuter des plus récents événements et développements à propos de la pandémie et avec principalement l'arrivée du nouveau variant et la hausse des cas à l'approche du temps des fêtes. Donc pour cette hausse des cas, on va aller sur le vif du sujet. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette hausse récente ?
La hausse récente est essentiellement une augmentation des nombres de cas d'infection auprès des élèves d'âge scolaire et donc primaire et préscolaire. Ça veut dire que ce sont des enfants qui ne sont pas vaccinés encore, parce que la vaccination des enfants vient de commencer. Donc, on voit quand même une très grande augmentation, et ça veut dire que le fait d'avoir décrété que les gens n'ont plus besoin de porter le masque à l'école, et surtout qu'on s'est jamais préoccupé de la question de la ventilation les classes, était une très mauvaise idée.
C'est une question sur laquelle on va pouvoir y revenir tout de suite, sur laquelle je comptais revenir avec vous dans les prochaines minutes. Donc, est-ce qu'il y a une erreur de stratégie au niveau de la prévention de la transmission de la COVID dans le milieu scolaire? Parce qu'on voit, par exemple, au niveau des chiffres de la hausse, qu'il y a deux endroits où les bulles d'éclosion se forment principalement. Donc, c'est le milieu scolaire et le milieu de travail, deux endroits où les mesures barrières, port du masque, distanciation ont vraiment été diminuées, se sont amenuisées avec le temps entre des personnes qui acceptent moins en moins et aussi un gouvernement qui a donné des indications un peu contraires aux vraies recommandations qui auraient dû être de santé publique. Donc, est-ce qu'on voit une perte d'efficacité de la stratégie gouvernementale?
Pas la perte d'efficacité de la stratégie du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui a dit maintenant arrêtez de porter le masque, vous pouvez arrêter de porter le masque.
Donc c'est une erreur.
C'est une erreur, et peut-être surtout dans le cas du milieu scolaire, le milieu primaire, où on sait pertinemment que les gens ne sont pas vaccinés, ils n'étaient pas encore dus pour la vaccination. Ils n'avaient pas encore accès au vaccin. Alors c'était une mauvaise idée de diminuer les mesures de prévention et, comme vous avez mentionné, de protection. Parce que de plus en plus, là, ça commence à faire beaucoup de gens. Il y a à peu près 650 classes qui sont fermées. C'est beaucoup d'infections, de nouvelles infections chez ces jeunes.
Surtout les enfants non vaccinés, ça veut dire qu'ils sont des vecteurs encore plus transmissibles de virus. Donc, ils ont le potentiel de ramener encore plus fort le virus dans la famille.
Sauf que, normalement, les adultes sont bien vaccinés et devraient être protégés, normalement. Mais on voit qu'il y a une baisse aussi de la protection, tout dépendamment de quand
avec
est-ce qu'on a été... Ben oui, avec le temps. Donc, tout dépendamment de quand est-ce que les adultes du ménage ont été vaccinés, ils peuvent peut-être être à risque d'attraper l'infection, même s'ils sont vaccinés.
Donc,
c'est pas tout le monde. Le vaccin offre une très bonne protection, mais au fur et à mesure, cette protection peut diminuer.
Donc, ça nous permet d'amener à une autre question au niveau de la stratégie de vaccination. Face à cette hausse des cas, face à l'arrivée aussi de ce nouveau variant Omicron sur lequel on va pouvoir revenir dans quelques instants, qui semble être plus transmissible, mais moins virulent selon des premiers tests, et encore, ça peut être amené à évoluer. Est-ce que la stratégie de vaccination devrait être un peu plus généralisée dans le sens où on accélère l'injection de booster pour tout âge, et aussi on accélère la vaccination des enfants?
Accélérer la vaccination des enfants est incontournable. Donner une troisième dose, oui, ça va augmenter la protection, à condition que, si on craint la montée du nouveau variant qui est le Omicron, on connaît trop peu de choses encore sur Omicron pour pouvoir se prononcer, changer nos stratégies en fonction de ça. Pour l'instant, étant donné qu'on connaît trop peu de choses, il faut resserrer les mesures. temporairement pour pas qu'on le regrette plus tard. Il semble, on ne sait pas encore s'il est moins virulent, s'il est moins grave, parce qu'on n'a pas assez de recul par rapport à ce variant. Il ne faut pas oublier que les gens qui attrapent la COVID, 50% ont zéro symptôme.
C'est ça.
N'ont pas de symptômes. Donc, si on se base sur juste la première semaine des personnes qui ont la COVID, même avec la souche initiale, ben on serait porté à dire que c'est pas si grave parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui développent des complications. C'est vrai, il y a juste 20% des gens qui développent des complications et tout ça, mais ça ne veut pas dire que la maladie est moins grave. Donc, il faut se donner un peu plus de temps pour réellement voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on a en face de nous comme ennemi? Omicron, est-ce qu'il est réellement moins virulent? Est-ce qu'il est réellement plus transmissible ou pas? On sait trop peu de choses. Prudence. Il faut qu'on soit plus prudent que
au niveau de la prudence, est-ce que vous êtes rassuré par les propos du ministre Christian Dubé pour les rassemblements de Noël, dire que les rassemblements au niveau de 25 personnes et plus, on va probablement oublier ça cette année, que soit on restera en l'état ou peut-être de nouvelles restrictions apparaîtront?
Peut-être. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il faut faire pour les fêtes. Restons prudents, soyons prudents pour l'instant avant les fêtes. Et occupons-nous de la question de la ventilation. Soyons conscients de comment l'infection peut être transmise. C'est comme un peu la fumée de cigarette. On ne veut pas se ramasser avec quelqu'un qui fume à l'intérieur, donc on ne veut pas se ramasser avec quelqu'un qui est infecté à l'intérieur non plus. Essayons de voir comment ça va se passer. Pour l'instant, les restaurants sont encore ouverts. Le masque est un très bon moyen de prévention. Continuons là-dessus et on verra. Pour les fêtes, on va s'ajuster. Il n'y a rien qui est gagné pour les fêtes. Peut-être qu'on va pouvoir, tout dépend de l'évolution de l'épidémie. Peut-être qu'on va réaliser que, et les fêtes, ça va être sur Zoom et à l'extérieur. Ou peut-être on va réaliser que, Omicron n'est pas si méchant et nous donne une protection et ne cause pas de problème. Donc, on pourrait se réunir.
Au niveau du rétropédalage ou aussi plutôt de la prudence et du principe de précaution qui semble s'installer face à ce variant, on a les annonces qui ont été faites au niveau fédéral. Qu'est-ce que vous pensez des changements annoncés au niveau des frontières face à ce nouveau variant avec le retour d'une quarantaine, le temps de recevoir un test négatif quand on arrive par avion, sauf quand on arrive des États-Unis?
Ça, c'est une très, très bonne mesure de remettre la quarantaine quand on arrive de l'extérieur, mais de partout de l'extérieur, pas juste par avion, parce que c'est une très mauvaise idée d'avoir ouvert la frontière avec les États-Unis, en plus avoir enlevé le test PCR, même pas question de quarantaine, mais même enlever le test, sachant très bien que dans le monde, le pays où il y a le plus d'infections par jour, c'est les États-Unis. Et alors, ça, c'est une très, très mauvaise idée. Je comprends très bien les gens qui sont aux deux côtés de la frontière, la moitié de la famille d'un bord de l'autre. C'est pas eux qui représentent le danger. Mais quand on envoie le message à la population, maintenant vous pouvez aller aux États-Unis, pas besoin de vous faire tester si vous retournez en dedans de 72 heures. Ça, c'est tous les gens qui s'en vont à New York pour passer une fin de semaine.
On voit aujourd'hui qu'il y a eu un pic d'infection à New York, le plus haut pic depuis la fin de la troisième vague. 10 000 cas, je crois, qui ont été annoncés ce matin. Donc ça fait qu'on a un retour aux frontières du Québec, un assez fort retour de chiffres en hausse, dans ce qui indique, est-ce que le fait, par exemple, de ne pas permettre une sorte de aussi un rétropédalage au niveau des mesures pour la frontière américaine, est-ce que c'est fait que ces mesures au niveau quarantaine, résultat négatif pour rentrer au Canada par voie aérienne, c'est plus des mesures d'apparat que des mesures nécessaires, en fait?
Non, c'est pas juste une apparence. C'est nécessaire, mais c'est nécessaire pour partout. C'est comme ici, il y a une fuite d'eau. Si on bouche. Si on a trois trous par où l'eau rentre dans la maison, puis on en bouche deux, puis on en laisse un ouvert, l'eau va rentrer pareil.
Oui, c'est ça.
C'était nécessaire de boucher les deux autres trous, mais il faut les boucher les trois pour que ça arrête de rentrer. Et finalement, l'Omicron est rendu dans à peu près 20 pays, est rendu pas mal partout. Donc, c'est inutile de dire tous cibler seulement les personnes qui arrivent de l'Afrique australe. Ça sert plus à rien, parce que ceux qui arrivent de la Belgique, c'est la même chose. Qui arrive des États-Unis, ça va être la même chose.
C'est même assez discriminatoire aussi comme mesure. Discriminatoire socialement et économiquement.
Oui, et il faut saluer la diligence et la compétence du système de santé en Afrique du Sud, qui a réussi à mettre le doigt là-dessus et l'identifier. Comment ils ont identifié Omicron? Il y a eu un énorme pic tout d'un coup à Johannesburg de cas. Ils se sont dit, mais là, c'est trop bizarre. C'est pas du tout normal, c'est trop bizarre. Alors, ils ont vérifié là-bas, les rassemblements sont pas interdits, hein. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Les universités sont en fonction et tout. Alors, maintenant, surtout où c'est l'été, là-bas, donc c'est pas une période propice à une augmentation des cas. Oui. Ils ont vu une grosse éclosion auprès de la population étudiante, donc ils ont analysé tout ça, et à cause du sida, eux, ils ont de très bons laboratoires biologiques. C'est ça. Ils ont réussi à détecter ce variant et qui était déjà répandu chez eux. Ils l'ont partagé avec tout le monde et on en a vu ailleurs aussi.
Et on a pu voir une éclosion similaire aussi en Europe. C'est ce qui a permis aussi de tilter sur ce nouveau variant en territoire occidental avec l'explosion de cas dans le cadre d'un vol qui provenait de Johannesburg où 61 personnes dans ce vol ont pu être infectées. Oui. Donc au niveau de ce nouveau variant et face à la nécessité de vacciner pour éviter l'arrivée d'autres potentiels variants peut-être plus dangereux, qu'est-ce que vous préconisez? J'ai pu vous voir sur Twitter et aussi dans les différents médias expliquer qu'il faudrait vraiment que par exemple le Canada accélère sa mise à disposition de doses de vaccins et de ressources qui permettrait de vacciner plus rapidement les pays en besoin.
Oui, parce que tant que le monde entier est vacciné à peu près à 50%, pas plus. C'est pas du tout assez. Tant qu'il y a des personnes susceptibles à s'infecter par le virus, mais le virus, lui, tout ce qu'il cherche, c'est un terrain fertile pour la survie de son espèce, pour se reproduire. Et c'est ce qu'il va faire. Donc, tant qu'ailleurs dans le monde, les gens ne sont pas protégés, nous, ici au Québec, non plus, on n'est pas protégés, même si on se dit... Ça veut dire, à partir du moment où les frontières sont ouvertes, une infection ailleurs dans le monde, l'autre bout de la planète, peut arriver en dedans de 24 heures chez nous.
C'est ça.
Donc, il faut surveiller les frontières, il faut donner accès aux médicaments, aux vaccins. Pays les plus pauvres aussi aient accès au vaccin. Une grande partie de la population, une fois qu'elle est protégée, le virus, il va trouver moins prenant pour se multiplier et muter.
Et donc, à partir de le rendre plus faible, faire des ravages, et donc potentiellement aussi qu'il meure de lui-même, car il n'a plus la capacité vraiment de pouvoir évoluer comme il faut pour survivre.
Oui, et surtout, pour donner accès au monde entier au vaccin, qui finalement, pour l'instant, est la mesure la plus efficace pour contrer le virus, il faut transférer la technologie. Parce que c'est pas vrai que Pfizer ou Moderna vont être capables, ou même Sputnik vont être capables de produire assez de vaccins pour que le monde entier
puisse ouvrir les brevets pour que tout le monde puisse manufacturer. Merci.
Oui, en regardant juste Pfizer, là, ils ont fait 16 milliards de profits pendant les 6 premiers mois de l'année. Ils peuvent se le permettre, surtout que les vaccins ont été développés avec beaucoup d'argent public.
C'est ça. Merci beaucoup, Madame Machouf, d'avoir répondu à nos questions ce midi. C'était très gentil.
Merci à vous.
Merci à vous. Notre deuxième invité du jour, c'est un chercheur à la mode, ou plutôt même quelqu'un qui s'est imposé sur les questions linguistiques dans ces derniers mois et cette dernière année, c'est Frédéric Lacroix. Bonjour Monsieur Lacroix.
Bonjour.
Avec vous, on va discuter des différents événements en matière de droit linguistique, ou plutôt en matière de questions linguistiques du Québec de ces dernières semaines. Donc c'est principalement le don de l'hôpital Victoria et d'une grande partie du Mont-Royal à l'université McGill et la question des étudiants étrangers francophones qui sont refusés par Ottawa pour installation et études au Québec. C'est beaucoup d'éléments qui vont à l'encontre du discours des autorités en place pour dire qu'on veut garder la vitalité des communautés francophones et du fait français au Québec. Mais finalement, on se rend compte que c'est assez pernicieux et que par derrière, tout ce qui se passe, c'est que ça ne fait que diminuer la part francophone au Québec. Donc tout d'abord, qu'est-ce qui se passe avec McGill, le Mont-Royal et le gouvernement du Québec?
Oui, donc, si on refait l'histoire de ce qui se passe avec l'hôpital Royal Victoria, c'est qu'au début des années 2000, le gouvernement du Québec a décidé de construire deux méga-hôpitaux à Montréal. Donc, de centraliser les hôpitaux sur un seul site. Donc, et ce qu'il a décidé de faire, c'est de construire un méga-hôpital. C'est un milieu hôpital de langue française. Donc, ça a été le McGill University Health Center sur la cour Glenn et le CHUM. Donc, déjà, il y a 20 ans, la décision de dédoubler les structures en santé était surprenante. Donc, aujourd'hui, McGill est doté d'un méga hôpital sur la cour Glenn, qui est le plus gros hôpital au Québec. Il faut le savoir, c'est l'hôpital qui a le plus de lits. Puis, originalement, dans le projet de méga-hôpitaux, l'idée, c'était de centraliser tous les services cliniques sur un seul site pour faciliter l'accès aux patients.
Et faciliter le suivi.
C'est ça. Mais ça n'a pas été fait. Dans le cas des anglophones, par exemple, le Montreal General est resté ouvert et a même été agrandi. Puis, le Royal Victoria, donc, a été abandonné en 2015 par l'hôpital, par McGill, a été déménagé sur la cour Glenn. Mais là, ce qui se passe, c'est que le gouvernement décide de conserver cette institution-là, ce complexe institutionnel-là, dans le giron anglophone, en le refinant à McGill. Donc, si on fait l'histoire des 20 dernières années, ce que le gouvernement de Québec a fait, c'est qu'il a agrandi, il a augmenté beaucoup le poids des institutions en santé de langue anglaise à Montréal, là, énormément. Ils ont construit le plus gros hôpital pour les anglophones. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent toutes les institutions qui étaient existantes dans le giron de la communauté anglophone. Donc,
On agrandit et on surreprésente au niveau des édifices et des bâtisses qui sont destinés à la communauté anglophone. On surreprésente, alors que au niveau du poids démographique, le poids reste quand même petit et désuet face à la communauté francophone. Donc, est-ce que ça devient ce genre de choses, une sorte de vecteur, sa facilitation à l'assimilation à la communauté anglophone, par exemple pour les allophones et pour certains francophones qui baignent beaucoup avec les anglophones?
Oui, tout à fait. C'est la thèse de mon livre, « Pourquoi la loi 101 est un échec ». Donc, la complétude institutionnelle, c'est un facteur important pour la vitalité des communautés linguistiques. Puis pour les anglophones, on se rend compte que la complétude institutionnelle en santé et en éducation, c'est au moins d'un facteur 3 par rapport au poids démographique. Donc, juste pour vous rappeler que les anglophones, sur l'île de Montréal, c'est 17 % de la population en termes de langue maternelle, mais ils ont environ la moitié du réseau institutionnel en santé et en enseignement supérieur.
Ah oui,
cette part-là est en croissance.
C'est ça.
Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il est en train de s'établir une domination anglophone en santé et en enseignement supérieur sur l'île de Montréal. Puis ça, ça aspire dans son orbite les francophones et les allophones, puis ce sont les institutions les plus grosses, les mieux financées, les plus prestigieuses. Donc, ça affecte à la hausse la vitalité linguistique de l'anglais et à la baisse directement la vitalité linguistique du français. Donc, puis c'est le gouvernement du Québec qui est à l'origine de ça. C'est ça qui est incroyable, à mon avis.
Donc, au niveau de ces institutions et donc de ces bâtisses, à quoi vont-elles être destinées, par exemple, pour l'hôpital Victoria? J'ai pu vous voir discuter avec M. Bocoté dans le cadre d'une entrevue dans le journal que ces bâtisses seraient en fait encore un moyen pour faciliter la rétention et l'arrivée d'étudiants étrangers qui, pour la plupart, on le voit souvent, et ça nous permettra d'aller à un autre sujet de notre discussion, utilisent le permis d'études et le CAQ qui est donné aussi par le gouvernement du Québec pour faciliter une immigration assez rapide au Québec, sans vraiment s'intégrer à la communauté française et sans vraiment aussi avoir à apprendre le français avant leur immigration définitive.
Oui, c'est ça. Donc, pour vraiment comprendre ce qui se passe dans le dossier, il faut avoir conscience que le système d'immigration canadien a vraiment changé dans les dernières années. Puis le gouvernement du Canada utilise maintenant les institutions d'enseignement supérieur comme porte d'entrée pour attirer et retenir des immigrants. C'est maintenant facile d'avoir un permis d'études, d'étudier au Québec, puis après d'être sélectionné comme candidat à l'immigration permanente. Puis ça, c'est pas un problème, même que je pense que c'est une bonne stratégie de façon générale, mais là où ça devient un problème, c'est quand on constate que la prépondérance des institutions anglophones dans la sélection et l'attraction du bassin des futurs unions au Québec. Donc, pour le réseau collégial, par exemple, on est à peu près 70% des étudiants internationaux qui sont dans les cégeps de langue anglaise. C'est vraiment ahurissant. Puis les universités, sur l'île de Montréal, c'est plus de la moitié. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on accueille des étudiants internationaux, on les socialise en anglais, les intègre au Québec anglais. Après ça, on va leur exiger des connaissances du français, mais la connaissance et l'usage d'une langue, c'est deux choses différentes. On les prend comme immigrants permanents, mais ils sont déjà intégrés dans la communauté anglophone. Donc ce qu'on fait...
On fait un transfert de population.
c'est ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on augmente le poids de la communauté anglophone directement en se servant du réseau collégial et du réseau universitaire. Puis c'est très, très payant pour les universités. Donc, McGill fait des centaines de millions de dollars par année à l'étude internationale.
Dans votre dernier livre à propos de l'utilisation du réseau collégial pour l'augmentation de la communauté anglophone, on peut lire aussi que même les collèges et universités francophones, en proposant de nouveaux programmes quasiment uniquement en anglais, l'exemple parlant c'est HEC Montréal, participent aussi à ce transfert de population vers la communauté anglophone des nouveaux arrivants allophones, par exemple.
Oui, tout à fait, parce que les étudiants internationaux veulent plus de programmes en anglais. Les bassins de recrutement sont plus du côté de l'Asie, du Moyen-Orient. Mmh. Donc, c'est des étudiants qui veulent des programmes en anglais. C'est aussi eux, souvent, qui ont plus de moyens financiers. Donc, ce sont des étudiants qui sont très, très payants pour les universités. Mmh. McGill est en train de faire fortune avec ça, ce qui explique en fait le projet d'expansion au Royal Victoria. Ils vont accueillir quelques milliers d'étudiants de plus. Ça va être des entrées de fonds très substantielles. Puis, du côté francophone, on attire moins d'étudiants internationaux, des étudiants souvent moins payants. Donc, on a moins les moyens de faire ce genre d'expansion. Donc, c'est une dynamique qui tourne et qui est en train, à mon avis, d'oblitérer le fait français au centre-ville de Montréal.
Donc, l'autre exemple pour les étudiants internationaux, c'est ce refus massif d'étudiants francophones provenant de l'Afrique de la part du gouvernement du Canada. On voit Immigration Canada se défend que c'est à cause d'un logiciel qui permet de faciliter le traitement des demandes. Un logiciel qui centralise, en fait, toutes les données en un seul point, qui aide ensuite l'agent d'immigration à rendre sa décision. Mais on se rend compte finalement qu'il y a une discrimination assez forte, même extrêmement forte, contre les étudiants francophones et que cela facilite aussi ce transfert de population, cette prépondérance massive d'étudiants provenant de communautés anglophones face aux étudiants provenant de communautés francophones au Québec. Quel est le problème à ce niveau-là?
Ce qui est fascinant, c'est que les refus se contentent sur les étudiants, non pas seulement francophones, mais les étudiants qui vont étudier en français au Québec.
Ah oui.
Donc, il n'y a pas les étudiants français, mais les étudiants qui vont étudier dans les programmes en français.
Ah oui. C'est encore pire.
Donc, les étudiants du même pays d'Afrique sont admis beaucoup plus facilement hors Québec dans des programmes en anglais qu'au Québec dans des programmes en français. Donc, ça, c'est fascinant. Donc, ça veut dire que la discrimination est directement liée à la langue d'étude. Puis moi, je trouve que blâmer un logiciel pour ça, c'est une excuse ridicule. Oui. Le logiciel a été codé par des gens. Ce sont des gens qui font les décisions. Donc, ce sont des gens, ce sont des fonctionnaires à Ottawa qui n'ont probablement pas les intérêts du Québec à cœur. C'est pas les choses comme ils sont.
Que faudrait-il pour inverser la tendance? Est-ce que Québec a les pouvoirs d'agir?
Québec a certains pouvoirs à cause de l'entente Canada-Québec. Donc, le Québec émet des certificats d'acceptation du Québec pour les immigrants temporaires. Donc, les étudiants internationaux, ce sont des immigrants temporaires. Donc, ce que le Québec pourrait faire, c'est étudier les dossiers et refuser d'émettre des CAC, par exemple, pour les étudiants qui vont en surnom dans les institutions de langue anglaise. Ça pourrait être fait. Ils pourraient dire, OK, la communauté anglaise, c'est 10 % de la population. On émet 10 % des CAC pour Concordia, McGill, etc., au lieu de 60-70% comme c'est actuellement. Ça, c'est une chose qui pourrait être faite. Une autre chose aussi qui est simple, c'est de dire, OK, dans les programmes d'immigration permanents, on va sélectionner des gens qui ont étudié en français. Ça, à mon avis, c'est quelque chose qui doit absolument être fait. Il faut cesser d'exiger seulement une connaissance du français, puis il faut exiger
le fait d'avoir
étudié. Oui, c'est ça, l'usage du français, l'intégration au français. Ça aurait des conséquences majeur, même avec un statut provincial, même sans faire l'indépendance du Québec. Donc, on a beaucoup d'outils, puis le gouvernement refuse de s'en servir. C'est ça qui est absolument fascinant.
Et donc, pour vous, quelles sont les causes de ce refus? Parce que c'est ça, on a un gouvernement qui se dit nationaliste, qui se dit pour la défense du français, qui propose même une loi pour moderniser la loi 101 afin de la revitaliser un peu. Néanmoins, de l'autre côté, il donne des institutions ou des bâtisses historiques à McGill. Il donne 100 millions à Dawson pour agrandir le cégep de Dawson et donc aussi faciliter son accueil pour des étudiants francophones et allophones. Pourquoi il se passe ça? Pourquoi la parole ne suit pas les actes?
Oui, donc le gouvernement du Québec a un double discours, en fait, il faut le dire. Donc, il flatte la fibre nationaliste et la fierté d'un côté, avec des paroles, des belles paroles, mais les gestes ne suivent pas. Les gestes, c'est le contraire des paroles, souvent. Pas dans tous les dossiers, mais dans le dossier de l'enseignement supérieur et de l'immigration, c'est vraiment manifeste. Puis là, je vous renvoie à un ouvrage de l'écrivain Jean Boutriette, qui a publié un essai en 1970, ça fait longtemps, qui s'appelle « Le Canadien français et son double », dans lequel il dénonce l'ambiguïté et puis le double discours de la bourgeoisie canadienne-française. Puis là, je vais vous le citer parce que ça explique tout. Il dit, c'est cette ambiguïté qui est à la source de l'opportunisme politique de notre bourgeoisie traditionnelle, qui fut et est encore à la fois nationaliste et collaboratrice. Son instinct de survie lui commandant à la fois, pour se tenir en selle, de flatter le peuple par des slogans autonomistes et de rassurer l'anglais en l'assurant de notre docilité. Le dédoublement de la personnalité a conduit tout naturellement au double jeu politique caractéristique des peuples dominés. Fin de la citation. Donc, ce qui est fascinant, ça, c'est que 1970, puis on voit...
Mais ça reste encore d'actualité.
C'est tout à fait d'actualité. Ça explique complètement ce qui se passe avec M. Legault. C'est n'importe.
Dernière petite question. J'aimerais vous entendre sur la situation particulière des collèges privés, parce que quand on parle aussi de rétention et d'accueil d'immigrants allophones et anglophones au Québec, et pour qu'ils s'obtiennent assez facilement ensuite le permis d'études qui lui permettra un accès rapide à la résidence permanente, c'est les collèges privés. On voit que ces derniers investissent beaucoup d'argent dans le lobbying auprès du gouvernement afin que les situations et surtout, par exemple, la loi 96 ne leur soient pas appliquées. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment il faudrait pas les mettre au pas, mais comment il faudrait faire en sorte que ces derniers aussi puissent collaborer efficacement à la rétention et à la facilitation du maintien du Québec français?
Ce qui est fascinant, c'est encore une fois l'inaction de la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle Mécan, dans ce dossier-là, qui ne fait absolument rien, alors qu'en 2020, on est rendu à 24 000 Indiens inscrits dans des collèges privés anglophones, qui sont inscrits à des AEC, qui vont mener à pouvoir postuler comme immigrants permanents. À mon avis, il faudrait tout simplement fermer cette voie d'accès à la citoyenneté. Il n'y a pas de raison de garder ça ouvert. On peut la garder ouverte pour des institutions d'enseignement de langue française. Mais si vous venez étudier en anglais dans un collège privé, vous n'avez pas accès à la citoyenneté. C'est fermé. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas faire ça.
Surtout, ce qui est assez drôle, c'est que Mme McCann s'était offusquée des différentes affaires qui avaient été liées, par exemple, à ces collèges privés dans les dernières années. Et malheureusement, rien n'a été fait ensuite. Merci.
J'ai calculé que les collèges privés faisaient au moins 300 millions avec les étudiants indiens. Ça augmente très rapidement. Donc, à mon avis, c'est un dossier dont on n'a pas fini d'entendre parler parce que j'aimerais savoir où va cet argent.
Ça, c'est suivre le tracé un peu pour savoir où ça va. Il y a probablement beaucoup d'affaires qui sont cachées en dessous de ça.
Oui.
Merci beaucoup, Monsieur Lacroix, d'avoir été avec nous ce midi. Je rappelle que vous êtes l'auteur de deux récents livres à propos des questions linguistiques, Un libre choix sur la question de l'enseignement dont nous avons discuté aujourd'hui à l'émission, et aussi votre succès de l'année précédente, Pourquoi la loi 101 est un échec, présentant les raisons de l'échec de la loi 101. Tout est dans le titre. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui.